Exposé de philosophie politique par le frère François à Saint-Jaudard le 5 décembre 1992.
Bon, alors comme frère Marie-Dominique vous a dit hier, on va commencer la question disputée par deux séances de présentation sur le bien commun, donc à travers les deux grands philosophes grecs, Platon et Aristote. Essayez de voir ce que l'un et l'autre en disent ou n'en disent pas, je pense à Platon. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour Platon parce qu'il y a beaucoup plus à dire pour Aristote et j'aimerais bien pouvoir commencer à parler d'Aristote pendant cette heure-ci. Pour commencer globalement cette approche et ce regard sur l'apport de la philosophie grecque, je crois qu'il n'est pas inutile d'avoir un petit regard historique sur la façon dont se sont élaborées dans la pensée grecque, au 5e au 4e siècle essentiellement, les grands concepts, si vous voulez, les grandes notions de la philosophie politique qui apparaissent à ce moment-là et qui vont rester présentes, ou, on le verra plus tard avec les autres séances de présentation, disparaîtront dans la pensée de la philosophie politique moderne, ou plus récente en tout cas. Historiquement, bon, vous le savez, la démocratie grecque naît au début du VIe siècle avec Solon, et très rapidement, elle va connaître des déviations, des difficultés internes, avec l'apparition de régimes de tyrannie. Donc, très rapidement, il y a une instabilité qui affecte le régime de la démocratie grecque. Et le 5e siècle est un siècle qui est particulièrement agité, qui commence bien parce que, vous savez qu'au début, il y a les campagnes de la Grèce contre la Perse, ce qu'on appellera les guerres médiques, qui se terminent par le succès de la Grèce, donc une grande période pour Athènes, avec la constitution de l'Empire athénien et la période de Périclès à ce moment-là. Et puis, tout le dernier tiers du 5e siècle est au contraire marqué par la guerre du Péloponnèse, qui va opposer Athènes à Sparte et à ses alliés, et qui va se terminer en 404, donc à la fin du siècle, par la défaite d'Athènes et la désagrégation progressive de son empire. Alors, des problèmes extérieurs qui se doublent de problèmes intérieurs, avec cette instabilité chronique de la démocratie qui revient, la mise en place et l'arrivée d'oligarchies au pouvoir, des luttes intestines très fortes. N'oubliez pas, je parlais de 404, 399, 5 ans après, c'est la mort de Socrate, dans les conditions que vous savez. J'y reviendrai. Et puis, au 4e siècle, les problèmes internes, je dirais, d'équilibre de la démocratie perdurent, et vous savez que la deuxième moitié du 4e siècle est marquée par les difficultés, les conflits avec la Macédoine, qui va se terminer à la fin du 4e siècle par la victoire de Philippe de Macédoine sur la Grèce. N'oubliez pas qu'Aristote a été chargé de l'instruction d'Alexandre, fils de Philippe. Alors, j'en arrête là. Pourquoi ces rappels historiques? Pour relever deux points. C'est que d'une part, Athènes et la Grèce en général a très clairement conscience, et c'est très net dans les auteurs, de la supériorité de son régime. De son régime démocratique, donc la démocratie, autour et à travers également la cité. Il faut voir comment les auteurs grecs, Platon, Aristote, pour ne citer qu'eux, parlent des étrangers, avec quel mépris ils les traitent. Donc, une très nette conscience de la supériorité du régime et en même temps une prise de conscience immédiate des difficultés internes et de la difficulté à assurer sa pérennité. Donc, une remise en cause un peu incessante. Alors, dans ces conditions, il n'est pas très surprenant, si vous voulez, de voir que la pensée grecque, en général, tout au long de du 6e au 4e siècle, finalement, surtout au 5e au 4e, va se pencher sur ces problèmes et s'interroger sur les causes possibles de ces déviations. Alors, vous l'avez chez tous les types de penseurs grecs, vous l'avez chez des orateurs comme Démosthène, vous savez, l'auteur des célèbres philippiques, qui écrit une espèce de traité politique assez brillant qu'est l'aréopagitique, qui est un regard sur les institutions, pas seulement les institutions, la vie et les institutions grecques. Vous l'avez chez un penseur Isocrate, qui est l'auteur de l'aréopagitique, Démosthène, c'est à travers ses philippiques, et puis vous le trouvez, bien entendu, ces réflexions, vous allez les trouver chez les philosophes, Platon, d'abord, grosso modo, première moitié du 4e siècle, et Aristote, deuxième moitié. Alors, J'en termine là. Quels sont les grands thèmes, finalement, que cela inspire? Pour ceux que ça intéresse, je vous indique qu'il y a un livre qui est très intéressant à la bibliothèque, qui est bref, qui est le livre de Jacqueline de Romilly, qui s'appelle « Problèmes de la démocratie grecque ». Alors, soyons clairs, c'est pas un livre de philosophie, c'est un livre d'histoire des idées politiques, et qui est très intéressant néanmoins. Alors, en puisant dedans, je relève deux grands thèmes, si vous voulez, de réflexion, qui vont nous intéresser, notamment pour introduire la pensée de Platon. L'un de ces grands thèmes, c'est l'anarchie démocratique. Anarchie, anarché, l'absence de principe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette anarchie démocratique qui apparaît dans la pensée grecque, chez tous ses auteurs, et très rapidement? C'est une attitude qui vise, en tout cas, au mépris des lois, ou alors non-respect. Et il ne faut pas oublier que la loi, on aura l'occasion sûrement d'en reparler, la loi dans la Grèce de cette époque, est d'essence, alors il y a une dimension juridique bien entendu, mais elle est aussi d'essence divine. Donc le mépris des lois a tout de suite une dimension qui dépasse le cadre strictement politique, si vous voulez. C'est important parce qu'on va le voir chez Platon. Donc on a une crise qui est politique, mais qui est également une crise morale. Ce mépris des lois qui va être magnifiquement incarné par les sophistes, pensez à nouveau au procès de Platon, au procès de Socrate, pardon, montre bien, si vous voulez, ce mélange des domaines entre la politique, la morale et le religieux, qui sont liés, bien entendu. On voit d'ailleurs que dans les réactions que ça va susciter face à ces crises, les réponses que les auteurs, comme ceux que j'ai cités, proposent, il y aura des tendances qui s'orienteront plutôt vers les réformes d'ordre moral, c'est-à-dire une réponse plutôt d'ordre moral, et d'autres, ce sera d'ailleurs d'une certaine façon le cas de Platon, et d'autres plutôt s'orienteront vers des réponses d'ordre politique, ce sera plutôt, je crois, le cas d'Aristote. Alors, en plus de cette anarchie démocratique, deuxième, je crois, grand thème de réflexion, qui est lié, bien entendu, qui est second peut-être par rapport au premier, c'est celui de la division de la cité. Il y a une conscience extrêmement nette dans la pensée grecque que la force et la puissance de la cité, de l'État, est liée à sa cohésion. Et alors c'est très intéressant, on le voit, tous les auteurs et toutes les études de topiques, même historiques qu'ils font, ils le font tous, Platon, Aristote, entre autres, en regardant les régimes étrangers, montrent que si la cité est unie, le régime est fort et l'État réalise ce qu'il souhaite, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Au contraire, les défaites ont toujours comme cause, au moins partielle, la division interne de la cité. Et l'apparition, au sein de cette démocratie, n'est-ce pas, de la primauté d'intérêts particuliers sur les intérêts du peuple en général. On prend conscience en Grèce que, dans le régime démocratique, le peuple ne coïncide pas systématiquement avec la cité. Et, alors, si j'ai fait ce grand détour, je crois qu'il n'est pas inutile, parce que c'est à partir de ce moment-là et de ces questions qu'on voit apparaître les thèmes de philosophie politique, si vous voulez, qui nous intéressent. On voit apparaître le thème de l'unité de la cité, le thème de l'intérêt commun ou de l'intérêt général, ça apparaît à ce moment-là, on le voit très bien dans les écrits, n'est-ce pas, qui vient s'opposer à l'intérêt de particuliers ou de certains groupes. L'oligarchie va instaurer, si vous voulez, un régime destiné à protéger les intérêts ou favoriser les intérêts de quelques-uns par rapport à ceux du peuple. Et puis, c'est à cette époque qu'on voit apparaître également un thème qui va connaître une grande permanence dans la pensée grecque, c'est celui de l'état des relations, si vous voulez, entre les citoyens, et notamment le thème de la concorde. La concorde entre les citoyens, l'homonoia, est un thème absolument permanent, alors qu'on va trouver sans arrêt chez Platon, beaucoup moins chez Aristote, j'y reviendrai, mais qu'on trouve chez tous les autres auteurs. Et de ce point de vue-là, il faut noter que Platon ne fait pas œuvre, j'y reviendrai, d'innovation très grande, il reprend des thèmes qui sont très présents dans la pensée grecque au moment où il commence à réfléchir sur ces questions. Donc, je crois que c'est à ce moment-là, si vous voulez, dans ce contexte qu'il faut bien retenir, d'une crise politique et morale, que apparaissent progressivement les conceptions d'un intérêt général ou commun qui, à mon sens, préfigure, on va le voir, et c'est Aristote qui fera le pas, l'apparition du concept même de bien commun. Et ceci, donc, un intérêt général ou commun face aux intérêts particuliers. Alors, comment Platon, pour l'aborder, répond-il à ces questions? Il ne faut pas oublier que Platon, on vous l'a dit, vous l'avez entendu, à maintes reprises, avait vocation à connaître une carrière politique. Personnellement et familialement, il était destiné à cela. Et il s'oriente vers une œuvre de philosophe, notamment, bon, vous savez que la mort de Socrate et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ont sûrement compté pour beaucoup dans cette orientation. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, on va le voir très vite, comment cette nostalgie de l'action politique, enfin, on peut en retrouver des traces très nettes et manifestes chez Platon. Sa grande, justement, en tant que philosophe qui se destinait au départ à une carrière politique, il va se poser la question, en philosophie politique, de savoir comment faire prévaloir l'unité de la cité. Et il va se poser la question de la façon la plus générale qui soit, quelle peut être la cité idéale? Comment la définir? Comment la caractériser? C'est son grand objectif. Et il va le faire, il va répondre à cela dans son grand traité politique, qui est la République. La République date de 380, vous voyez, on est au début du IVe siècle, et il y aura un autre traité sur lequel je reviendrai, les lois, tout à la fin de sa vie, d'ailleurs contemporain de sa mort, dans les années 340-335, semble-t-il. Mais c'est surtout la République qui fonde, si vous voulez, qui pose les grands fondements de la philosophie politique de Platon. Alors, sa démarche va donc être de savoir comment faire prévaloir en tout temps l'unité de la cité et faire prévaloir la concorde et l'amitié entre les citoyens. Alors j'insiste sur ces termes parce qu'on les retrouve comme un vrai leitmotiv dans toute l'œuvre de Platon. Alors de la République aux lois, c'est homonoia kai philia, la concorde et l'amitié entre les citoyens. Il n'en parle sans cesse, donc c'est un objectif très clairement affiché. Bon, voilà donc sa grande ligne de force, la grande question à laquelle il cherche à répondre, et il répond dans la République. Alors, bon, je ne peux pas vous résumer la République, qui est un traité qui est très long, bien que, je crois, assez très accessible, mais particulièrement long. Quels sont les grands traits, si vous voulez, de la... Alors, la grande caractéristique de la République, et inutile d'évoquer Aristote, mais on le fera après, ce sera l'une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas, chez Platon, de distinction entre l'ordre politique et l'ordre éthique. Les deux se confondent ou se superposent, si vous voulez. On trouve d'ailleurs à la fois cause et conséquence, enfin une manifestation et une conséquence. Il n'y a pas chez Platon de distinction entre l'ordre de philosophie spéculative et l'ordre de la philosophie pratique. Alors, comment cela apparaît-il, se manifeste-t-il? C'est que pour lui, vous savez, Platon a découvert, je crois que c'est un de ses grands apports, que la vie humaine est finalisée par la contemplation, la théoria. C'est la contemplation du bien en soi. Et ce qui caractérise la République, c'est que c'est cette contemplation qui va déterminer, pour Platon, chez lui, la politique. Le bonheur des citoyens, si vous voulez, doit être apporté par la politique. C'est par la politique que l'homme va atteindre son bonheur. Vous voyez, une caractéristique quand même très nette, je crois que c'est vraiment la grande dominante du traité. Alors, comment plus pratiquement, enfin plus concrètement, va-t-il présente-t-il tout cela et décompose-t-il tout cela? Pour Platon, la contemplation n'est pas donnée à tous, loin de là. Elle est donnée à un petit nombre, elle est donnée aux philosophes. Et il va en tirer, je vais très vite, mais ceux que ça intéresse pourront les... Je recommande notamment les livres 5 à partir de 471C, on m'a demandé des références, et le livre 6 de la République, dans lesquels il présente, lui, c'est le philosophe, parce qu'il contemple, qui doit gouverner. C'est toute la thèse du philosophe roi. Alors vous voyez tout de suite ressurgir les nostalgies de Platon pour la carrière politique qu'il a abandonnée ou qu'il n'a pas inaugurée, en tout cas. Et c'est très amusant d'ailleurs de voir comment il le présente. Il a des scrupules à avancer sa thèse. On le voit très bien dans le dialogue. Il dit, je n'ose pas le dire, mais si, le dirais-je quand même. C'est le philosophe qui doit gouverner. Il se rend bien compte quand même de la force, en tout cas de l'originalité de ce qu'il avance. Et alors il s'efforce de le justifier par la suite. Alors, quel est le but du philosophe? Donc, parce qu'il a la contemplation du bien en soi, il va éveiller à la vérité, à la connaissance, les citoyens. Et vous savez que c'est tout le mythe de la caverne. Alors là, il ne faut pas hésiter à lire. Lisez, c'est tout le début du livre 7 de la République. Ça va assez vite. Et c'est très beau. Hein. Donc vous voyez que Platon exprime toute la vue qu'il a sur le rôle, donc le rôle politique du philosophe contemplatif du bien en soi, qui va, dans des conditions dont je vais parler tout de suite, essayer de faire rejaillir cette contemplation dans l'ordre politique. Alors, comment justement ce rejaillissement, comment ce... Vous voyez que le philosophe est l'espèce de métaxu entre la contemplation et la cité. Alors, Quelle va être la courroie de transmission? Ça va être la justice. C'est par la justice politique, qui d'ailleurs, c'est intéressant de le voir, mais on n'a pas le temps de développer, ne se distingue pas finalement chez Platon de la justice dans l'ordre personnel. C'est la justice politique, si vous voulez, qui va présider au rapport entre les citoyens. Bon. Alors, les quatre premiers livres de la République sont consacrés à la justice. Il y a une étude historique, une étude extrêmement fouillée et poussée. Bon, vous savez que la justice au sens grec, il ne faut pas du tout le prendre dans le sens que étroit que ça atteint, que le terme a aujourd'hui. C'est pas du tout, il ne faut pas du tout le prendre dans un sens juridique, voire juridictionnel. La justice, c'est l'ensemble des principes et des règles dans un contexte religieux, n'oublions pas, qui va présider aux relations entre, en l'espèce en politique, entre les citoyens, ou entre les personnes en général. Donc, voyez un petit peu l'architecture pour Platon. Une contemplation du bien en soi par les philosophes qui va s'exprimer, se manifester dans la justice politique. Et la justice, ce sera également, c'est pour Platon, la vertu cardinale dans l'ordre politique. Il y a quatre grandes vertus politiques chez Platon. Il y a la justice qui est un petit peu le substrat de toutes les autres. Il y a la sagesse pour les gouvernants, bien entendu, le courage pour les soldats et la tempérance, la sophrosune, pour les citoyens. Je vais y revenir dans un instant. Donc, c'est par l'exercice de ces vertus, pour Platon, que la cité va pouvoir atteindre un état de concorde et d'amitié. Je voudrais vous lire simplement un petit... Vous voyez, la République, livre 4, 432a. Il y a un passage qui est très beau sur le... sur la tempérance entre les citoyens et sur le... Justement, cette concorde et la concorde qui doit prévaloir entre eux. La tempérance, dit-il, c'est donc une des vertus politiques, sous-tendue, si vous voulez, par la justice, s'étend absolument à toute la cité et produit l'accord parfait entre tous les citoyens, quelle que soit la classe, basse, haute ou moyenne, ou les ranges, par exemple, leur intelligence, ou si tu veux, leur force ou leur nombre, leur richesse ou quelque autre avantage du même genre. En sorte que nous avons pleinement le droit de dire que la tempérance est ce concert, alors c'est mal traduit, c'est homodeia, et cette concorde, cet accord naturel de la partie inférieure et de la partie supérieure pour décider laquelle des deux doit commander dans l'État et dans l'individu. Donc, vous voyez un petit peu comment cette architecture se met en place. Si on essaye de mettre ça un peu fait, vous voyez que au sommet de l'édifice, vous avez le bien en soi, qui est contemplé par le philosophe. Et qui va rejaillir sur la cité à travers la justice. En somme, si vous voulez, Platon, ce qui est intéressant, c'est justement cette confusion des ordres politiques et éthiques. Il faut doubler, si vous voulez, il faut juxtaposer deux plans, un peu comme dans une gravure en couleur. Vous avez le noir et puis on remet la couleur par-dessus. Vous avez donc le bien, le philosophe et la justice, et dans l'ordre politique, eh bien, vous avez le roi, ou le dirigeant, si vous voulez, qui sera le philosophe, et puis les citoyens. Donc vous voyez ces deux plans qui se superposent. Mais au sommet, il y a toujours le bien en soi. J'y reviendrai, parce que c'est intéressant de le voir aussi dans la lumière de ce que nous dit Aristote. Bon, alors, ça c'est l'architecture générale. Il faut, dans l'ordre politique, pour autant, en tirer des conséquences pratiques. Comment va-t-on organiser la cité ? Hein ? Il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de questions extrêmement concrètes. La cité est divisée, on le constate, c'est source de tragiques méfaits pour elle, aussi bien à l'intérieur que dans ses opérations extérieures. Comment faut-il l'organiser ? Alors, les conséquences que Platon en tire sont absolument radicales. Alors d'abord, il va de soi, n'est-ce pas, qu'avec une conception comme celle-ci, vous comprenez bien que Platon aura en horreur la démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple, pour parler rapidement, sans faire d'exégèse du terme. Donc, elle va directement à l'opposé de la contemplation du bien en soi par le philosophe. Platon a des phrases extrêmement méchantes et violentes contre la démocratie. Il dit, l'anarchie est le principe même de la démocratie, dit-il. C'est le régime où l'on peut tout faire, où tout est permis. Donc, vous voyez tout à fait la conception qu'il a. Mais alors, pour assurer cette unité de la cité, alors il va proposer des moyens qui sont absolument radicaux, puisque il va s'interroger sur les origines de cette division. Il va considérer que si les groupes s'opposent les uns aux autres à l'intérieur de la cité et mettent en péril son unité, c'est qu'il y a des jalousies, des envies qui vont naître des uns envers les autres. Donc, pour lui, il faut supprimer, éradiquer, supprimer à la racine toute cause de division entre les citoyens. Et c'est pour ça qu'il va arriver à... qu'il va proposer, n'est-ce pas, c'est une grande thèse largement développée dans la République, une communauté des femmes et des enfants et une communauté d'éducation des enfants au sein de la cité. Et c'est ce qu'on va appeler le communisme platonicien. Alors vous voyez que les moyens sont tout à fait radicaux. En supprimant toute source de différence, finalement, entre les citoyens, n'est-ce pas, on va supprimer toute source de division au sein de la cité. Je voudrais vous lire un petit passage sur l'unité de l'État chez Platon, un passage qui est assez beau, dans le livre 5, 462 B.C. Vous voyez ce qu'il dit. Peut-on citer pour l'État un plus grand mal que celui qu'il divise, et d'un seul en fait plusieurs, et un plus grand bien que celui qui l'unit et le rend un? Vous voyez, toujours ce thème de l'unité. On ne le peut. Ce qui unit, n'est-ce pas, la communauté de la joie et de la douleur, lorsque dans la mesure du possible, tous les citoyens se réjouissent ou s'affligent également des mêmes succès et des mêmes disgrâces, assurément. Au contraire, ce qui divise, n'est-ce pas, l'égoïsme de la joie et de la douleur, quand les uns sont au désespoir et les autres au comble de la joie, de ce qui arrive, soit à l'État, soit à des particuliers. Mais toujours les deux plans qui sont complètement mêlés, hein. Sans doute. Alors, d'où vient cela, sinon que de ce que tous les citoyens ne disent pas en même temps les mêmes mots, ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, et de même quand ils parlent d'une chose qui leur est étrangère. Rien de plus certain. Lorsque la plupart des citoyens disent de la même chose sous le même rapport, ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, n'est-ce pas la marque du meilleur gouvernement, du meilleur et de beaucoup? Donc, vous voyez comment il veut assurer l'unité de la cité, n'est-ce pas? Je crois qu'on peut aller jusque-là. Pour assurer cette unité, n'est-ce pas, il va chercher à mettre en place une uniformité des citoyens, une uniformité des partis. Donc, on va revenir pour... analyser ça dans quelques instants. Alors, avant de revenir, donc, on va essayer de faire un petit commentaire pour recentrer notre propos sur la question qui nous préoccupe, celle du bien commun. Je voudrais simplement vous indiquer qu'il y a deux autres traités politiques chez Platon, j'en ai mentionné un tout à l'heure. Il y a un traité qui s'appelle Le Politique, qui est un traité plus bref, qui nous intéresse beaucoup moins parce qu'il regarde spécifiquement l'art de gouverner, bien qu'il y ait un très très beau passage juste à la fin. Je vous l'indique, 311C, si vous voulez le lire. D'ailleurs assez célèbre. Plus intéressant pour nous, c'est le traité des lois. Ce qui est significatif, c'est que à la fin de sa vie, Platon revient sur sa philosophie politique. Les objectifs de la République sont toujours les mêmes, ça il ne revient pas dessus, mais il focalise, si vous voulez, son attention et sa réflexion sur l'aspect des lois. Et je trouve ça en soi assez révélateur. Bon, on y reviendra. Mais parce que, si vous voulez, c'est surtout l'aspect de réglementation, au sens très large, si vous voulez, qu'il regarde. Alors c'est vrai que c'est parce qu'il conserve les mêmes présupposés philosophiques que ceux qu'il a exposés dans la République, mais c'est peut-être aussi parce qu'il prend conscience, assurément, du caractère assez irréaliste, si vous voulez, des thèses proposées dans la République, et surtout du caractère très radical de son communisme, qui n'a rien à voir avec... le communisme d'essence marxiste qu'on a connu plus récemment. Alors, comment on peut essayer de tirer quelques conclusions de cette approche très rapide qu'on vient de voir de Platon? Pas perdre de vue, je trouve que son approche est quand même très originale, parce qu'au départ, originale, paradoxale, au départ, il y a une question d'ordre politique. Il part de la division de la cité, n'est-ce pas, et des troubles qu'elle connaît. Et il y répond par, finalement, un ordre qui est beaucoup plus, qui donne le primat, assurément, à l'éthique, on peut dire, en tout cas à la contemplation, et un rôle beaucoup plus second à la dimension politique des choses. Et, en même temps, et c'est là que le paradoxe intervient, les moyens politiques qui semblent second dans son architecture générale sont en même temps extrêmement radicaux par leur portée, n'est-ce pas, sur les hommes. Communauté des hommes et des femmes, c'est quand même... Faut voir ce qu'en disent d'ailleurs les autres auteurs grecs. C'est pas une idée qui est propre à Platon. Hein, c'est une idée qui existait, qui prévalait déjà dans la pensée grecque à cette époque. Mais lui, là, la formalise d'une façon extrêmement rigide. Moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce de disproportion, si vous voulez, qu'il y a entre le caractère très, très net, si vous voulez, radical des réformes politiques qu'il propose, et en fait un primat qui est donné à la dimension éthique dans la réponse qu'il donne. Et je trouve que ce qu'il fait dans les lois renforce ce sentiment. On est surpris de l'importance qu'il donne aux facteurs juridiques, enfin aux lois, à nouveau, pas seulement dans le sens juridique, mais alors que le primat est en fin de compte chez lui toujours donné à l'éthique. On a vraiment l'impression, et ça ressort tout au long de la lecture de la République, que, si vous voulez, l'imitation de la loi divine, que doit assurer en quelque sorte la justice, hein, expression de la contemplation du philosophe, l'emporte sur tous les aspects strictement politiques. Vous voyez cette espèce de déséquilibre dans l'œuvre de Platon. Et je crois que, je suis même sûr que Aristote y sera très sensible et il fait porter sa critique en particulier là-dessus. On va le voir. Si on regarde maintenant les principaux concepts qui nous intéressent, comme j'ai dit tout à l'heure, préexistaient dans la pensée grecque de cette époque. Voyons rapidement comment traitons comment Platon les traite. La koinonia, la cité. Là encore, thème qui n'est pas propre à Platon, hein, qui était sujet déjà de on le trouve en particulier dans la tragédie, même chez Eschyle un siècle auparavant. Qu'est-ce qu'il dit de la communauté? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il regarde le citoyen comme existant, n'est-ce pas, dans la communauté. Il regarde la communauté comme un donné. Finalement, quelle est son origine? Quel est son fondement? Quel est le fondement de la communauté? Platon ne s'interroge pas dessus, n'est-ce pas? Il la considère comme un tout qui est la réunion de l'ensemble des citoyens. Il va s'intéresser, on va le voir dans un instant, à son état, par la concorde, l'état des relations entre les citoyens, mais il n'y a pas d'interrogation sur les fondements profonds de la communauté. Alors il fait évidemment une petite topique historique sur les origines de la cité, mais il n'y a pas d'interrogation philosophique à proprement parler sur la communauté. Ce qui est très significatif, c'est la façon dont il la regarde. C'est la suite, je lis encore un extrait, c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, 462 CE. C'est très présent chez Platon, il regarde la communauté, il utilise l'analogie du corps humain. Hein. Et voilà ce qu'il dit. Que dire de l'État? C'est la suite directe de ce que je vous disais sur les citoyens qui pensent la même chose. Ceci est à moi, ceci n'est pas à moi. Tout le monde parle d'une seule voix, finalement, il réagit de la même façon. Alors, il ajoute, que dire de l'État qui se rapproche le plus de l'individu? Quand, par exemple, nous avons reçu quelques coups au doigt, toute la communauté du corps et de l'âme, rangée sous le gouvernement unique du principe qui la commande, sent le coup et souffre tout entière avec la partie blessée. Et c'est ainsi que nous disons que l'homme a mal au doigt. Et de toute autre partie de l'homme, on dit de même que l'homme souffre et qu'il a du plaisir quand elle se guérit. On dit de même, en effet, fit-il, et pour répondre à ta question, l'État le mieux gouverné est celui qui se rapproche le plus du modèle de l'individu. Qu'il arrive quelque chose, bien ou mal, à un seul citoyen, un tel État sera, je pense, le premier à dire que c'est lui qui souffre, et il se réjouira tout entier et s'affligera avec lui. Cela doit être, dit-il, s'il est bien réglé. Donc vous voyez cette analogie du corps humain. Voilà comment Platon regarde la communauté. Il y a plusieurs membres dont il va vouloir fonder l'uniformité pour que leur relation soit bonne. Ça va être la concorde, j'y arrive dans un instant. Mais c'est l'unité, si vous voulez, analogue à celle du corps humain qui intéresse. Moi, je trouve ça très, très frappant, c'est que vraiment la cité pour Platon, si vous voulez, c'est l'ensemble des citoyens. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion plus approfondie sur la communauté, sur la koinonia chez Platon. Alors, de même, la concorde, l'amitié, homonoia, la philia, sont regardées comme des états de cette communauté. Et en fait, c'est une vision qui est assez négative. C'est-à-dire, on est parti, souvenez-vous tout à l'heure, de la discorde dans la cité, et on s'est interrogé pour savoir comment faire prévaloir, au contraire, la concorde. Et, bon, je vous ai cité rapidement les moyens très catégoriques par lesquels Platon voulait faire prévaloir cette concorde, c'est-à-dire en supprimant toutes les divisions, toutes les différences entre les citoyens. Mais il s'en tient là, il ne va pas plus loin. C'est un état des relations. D'où vient véritablement cette concorde? On ne sait pas. Il va vous dire comment éviter la discorde, et c'est la question à laquelle il répond, mais il ne répond pas à la question d'où vient en profondeur cette concorde. Alors, il y répond indirectement en disant cette concorde vient de l'absence. En fait, simplement, il ne regarde pas la réalité, il regarde à nouveau sa cité idéale. Si, dans la cité idéale, il n'y a plus d'envie et de jalousie entre les citoyens, la concorde prévaudra. Mais dans les périodes de concorde telles que la Grèce, on a connu au temps des guerres médiques, c'est très beau cette période, parce que tous les penseurs s'y réfèrent, n'est-ce pas ? Tout réussissait à ce moment-là. Ça a été la grande époque. Et c'est l'ordre ancien vers lequel des tas d'auteurs, comme Isocrate en particulier, se retournent. Il faut retourner au régime des anciens, disent-ils. Ça revient tout le temps, c'est un thème permanent en politique. Le retour au passé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fondé cette concorde ? Platon ne l'analyse pas. Ça, je crois qu'il est très nettement défaillant de ce côté-là. Alors, autre concept qui apparaît, qui est très intéressant, l'intérêt commun, je l'ai cité, l'intérêt commun au sein de la cité. Vous voyez qu'on se rapproche de notre bien commun. Alors, il est présent, il est même omniprésent dans les lois. C'est une des grandes caractéristiques des lois. Je vous cite un petit extrait des lois, chapitre 4, 715, A et B. C'est très significatif. Lorsqu'il y a eu lutte pour le pouvoir, les vainqueurs s'approprient les affaires publiques assez fortement pour ne laisser la moindre parcelle d'autorité ni aux vaincus eux-mêmes, ni à leurs descendants, et les deux parties passent leur temps à s'épier, de peur que l'on ne vienne à se révolter et à s'emparer du pouvoir en représailles des torts subis dans le passé. Ce ne sont pas là, nous l'affirmons maintenant, des régimes politiques, et ce ne sont pas davantage des lois bien faites, celles qui ne l'ont pas été, dans l'intérêt commun de toutes les cités. Ne l'ont-elles été qu'en faveur de quelques-uns, nous appelons ceux-ci partisans et non pas citoyens, et le droit qu'on prétend leur attribuer une vaine prétention. Donc vous voyez que l'intérêt commun, qui est le grand critère de discrimination entre les lois justes et les lois injustes chez Platon, entre les bonnes et les mauvaises lois, l'intérêt commun ou général, les deux termes sont utilisés l'un pour l'autre, c'est assurer la primauté de l'intérêt de la communauté par rapport à celui du groupe. Alors là, je crois que c'est très important, parce que vous voyez que au départ, Platon veut éradiquer toute source de discorde dans la cité. C'est-à-dire qu'il veut sortir, si vous voulez, d'une vision dialectique entre les différents groupes, chacun essayant de faire prévaloir ses intérêts. Et comment veut-il dépasser cela ? En faisant prévaloir l'intérêt commun, l'intérêt de la communauté. Par-delà les intérêts de l'autre. Et je crois que c'est important, et Aristote le verra bien, c'est que, en fait, on quitte une vision d'affrontement très dialectique pour en fait retomber dans un autre. Car c'est à partir de ce moment-là, ça c'est très net dans la pensée de cette époque, qu'on va tomber dans l'opposition entre intérêt commun et intérêt particulier. Vous voyez, on est parti de l'opposition entre les différents intérêts particuliers, on veut faire prévaloir l'intérêt commun, et du coup on retombe dans une opposition entre l'intérêt commun et les intérêts particuliers. Ça, je crois que c'est capital, parce que vous allez voir comment Aristote répond à ça, on verra ça tout à l'heure, et comment aussi, on peut regarder ça comme un leitmotiv dans toute la pensée moderne, comment il y a cette tentation de retomber dans l'opposition entre intérêts communs et intérêts particuliers. Mais j'y reviendrai un peu plus longuement. Alors pour terminer, finalement, le bien commun chez Platon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le bien qui est présent chez Platon, c'est le bien en soi contemplé par le philosophe. Je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de bien commun. Le moins qu'on puisse dire, c'est même qu'il est très peu commun, puisqu'il est réservé à quelques-uns, qui sont les philosophes qu'il contemple. Et qui vont donc, pour ce motif et pour cette raison, diriger la cité. Donc, je crois que on ne peut pas parler véritablement de bien commun chez Platon. D'ailleurs, l'expression n'apparaît pas. On trouve l'intérêt général, et il est important de distinguer dès ce stade les deux sens. Hein, l'intérêt commun, l'intérêt général, ce n'est pas le bien commun. Le bien qui est présent chez Platon, c'est donc celui qui est contemplé. Alors, ce n'est pas inintéressant, si vous voulez, de regarder à travers le système des causalités d'Aristote, je terminerai par là sur Platon, comment son architecture se tient finalement. Est-ce qu'il y a une cause finale chez Platon, dans son architecture, dans sa philosophie politique ? Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas véritablement de cause finale. Le bien en soi contemplé par le philosophe, ce n'est pas véritablement une fin. C'est beaucoup plus une cause exemplaire. Il va s'agir d'imiter dans la cité, si vous voulez, la loi divine du bien contemplé. Et d'ailleurs, à nouveau, hein, c'est toute la le passage se fait difficilement. Je veux dire, entre tout son arsenal juridique et la justice, quel est le lien avec le bien? C'est pas très net, si vous voulez. C'est pas très surprenant, puisqu'on a une vision qui est très idéaliste des choses. Donc, on a surtout, je crois, une cause exemplaire plutôt qu'une cause finale. En tout cas, c'est comme ça que je verrai les choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Alors ça, c'est un constat qui vaut dans toute pensée politique et réalité politique, encore récemment, dans les accords de Maastricht, c'est significatif. Quand la cause finale est défaillante et que c'est la cause exemplaire qui prévaut, la cause finale est hypertrophiée. La cause formelle, pardon, est hypertrophiée. Quand la cause finale est atrophiée, la cause finale est hypertrophiée. C'est toujours comme ça. Et alors, ça vous donne cet arsenal juridique énorme de Platon, que vous trouvez dans la République, que vous trouvez dans les lois. Et ça, que vous trouvez la justice par les lois, que vous trouvez par les lois. Ça, c'est la cause formelle. Une cause formelle qui prévaut, fondée sur une cause exemplaire. Voilà. Alors, quelle sera la cause efficiente? La cause efficiente, c'est Philosophe. C'est le métaxion entre les deux. Oui. Et la cause matérielle, c'est le citoyen. C'est la cité. Voilà un petit peu, je crois, comment on peut... Alors, c'est une interprétation personnelle, mais je ne pense pas qu'elle soit hérétique. Voilà. Bon, alors, ce qu'on peut retenir pour terminer, hein, c'est qu'il y a un souci d'organiser, si vous voulez, un certain nombre d'éléments, si vous voulez, dans la philosophie de Platon, ceux qu'on a cités, pour un résultat qui est quand même, à mon sens, assez peu réaliste. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais tout de suite aborder la pensée d'Aristote, c'est que, comme le disait le père l'autre jour, la politique, le traité de la politique d'Aristote, c'est le grand sept contrats à la République de Platon. Et ça, c'est très c'est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que, alors même que je crois que, au regard de la question qui nous préoccupe, c'est du bien commun, la pensée de Platon n'est pas très riche, il faut la regarder parce que on ne peut comprendre vraiment celle d'Aristote que par rapport à celle-ci. Aristote, c'est 50 ans plus tard, à peu près, il écrit d'ailleurs dans un contexte politique qui est singulièrement apaisé par rapport à celui qu'a connu Platon. Il y a un seul traité majeur, n'est-ce pas, qui est celui de la politique, sous une réserve sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, parce qu'on peut se demander si certains raisonnements plus généraux, valants pour la politique, ne peuvent pas être trouvés dans l'éthique à Nicomaque, mais j'y reviendrai. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le but, je dirais, ultime d'Aristote en tant que philosophe est comparable à celui de Platon. Platon a cherché à établir la cité idéale. Quelle est la cité idéale? Quel est le régime idéal? Aristote, d'une façon beaucoup plus réaliste, va s'interroger sur le régime le meilleur. Et ce faisant, il va répondre, aux positions de son maître, Platon. Alors, il va de soi que, aussi bien dans la politique, d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans la République, je l'ai évoqué quand même, vous avez des aspects institutionnels et des développements institutionnels qui sont extrêmement longs. Ils nous intéressent assez peu ici, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais une bonne moitié de la politique d'Aristote est consacrée à ça. Il y aura une analyse des différents régimes, extrêmement fine et très intéressante d'ailleurs, et encore pour aujourd'hui, il y a bien des réflexions qui peuvent nous aider sur tel ou tel thème d'ordre politique. Et puis, Aristote finit par proposer le régime qui lui semble le plus adapté, qui est en fait d'ailleurs un mélange des différents régimes satisfaisants envisagés. Il est beaucoup moins catégorique, moins rigide, si vous voulez, que Platon. Mais ce n'est pas tellement la question qui nous préoccupe. Ce qui nous intéresse plus dans la politique, c'est sous cet angle-là que je voudrais qu'on la regarde rapidement, c'est qu'il va reprendre les différents concepts philosophiques, si vous voulez, que j'ai évoqués tout à l'heure, mais d'une façon, à mon sens, beaucoup plus approfondie. Fidèle, je dirais, à sa méthode ordinaire, si vous voulez, il va vouloir, en toute chose, remonter à la source, aux origines. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, j'indique pour ceux que ça intéresse, les livres les plus intéressants d'Aristote sont le livre 1 et le livre 3 dans son début, c'est-à-dire ce qui concerne les citoyens. Le livre 2 est un livre de topiques historiques et de réponses à Platon. Mais la réponse qu'il apporte à Platon tient une place très importante, donc on voit très bien quelles sont ses intentions. Mais pour nous, je crois que c'est le livre 1 surtout et le début du livre 3 qui nous intéresse. Et c'est là-dedans que je vous en citerai quelques passages tout à l'heure. Alors, Quelle est la grande caractéristique de la réponse finalement d'Aristote à la question toujours la même qui est posée, c'est-à-dire concernant la cité et l'ordre de la cité? La grande caractéristique, contrepoint de celle que j'indiquais pour Platon tout à l'heure, c'est une séparation radicale des ordres politiques et éthiques. Et de la même façon, si vous voulez, à la fois manifestation et conséquence, séparation de la philosophie spéculative et de la philosophie pratique. Aristote, vous le savez, isole dans sa philosophie pratique trois aspects, je crois vraiment, enfin, personnellement, qu'on peut les regarder indépendamment les uns des autres, enfin au moins au départ, qui sont la poétique, le fait géré, l'éthique qui regarde l'agir, et puis la politique qui regarde l'agir humain. Alors, cette distinction, si vous voulez, entre les ordres, ne tient pas seulement à la différence des traités, la politique d'un côté, l'éthique à Nicomaque de l'autre, donc, comme je l'ai dit, on peut émettre des réserves à ce sujet, mais surtout parce qu'il reconnaît à chacun de ces ordres une autonomie, si vous voulez. Chacune de ces branches représente une dimension, si vous voulez, de l'activité humaine. Donc, Aristote regarde comme ayant sa propre logique, sa propre autonomie, la politique comme une dimension d'activité humaine. Il regarde l'homme dans son activité politique. N'est-ce pas ? Alors, vous voyez tout de suite que cette confusion ou cette superposition permanente des ordres qu'il y avait chez Platon, il la conteste et il la refuse, radicalement. Bon, alors attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Je dis, il y a distinction des ordres, il n'y a pas indépendance. Pour Aristote, c'est très clair, l'homme ne peut atteindre sa fin qu'en communauté. Alors, la question évidemment qui va surgir, et j'espère qu'on pourra l'évoquer au moins tout à l'heure, qui est très difficile, est celle du lien qu'il y a entre l'ordre éthique et l'ordre politique, entre les fins, la fin en éthique et la fin en politique. C'est une question qui est très difficile. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le bonheur de l'homme, si vous voulez, ne va pas ressortir, au moins intégralement, de la dimension politique, comme Platon le proposait. Pour lui, le bonheur, c'était la politique qui devait donner le bonheur à l'homme, et Aristote, lui, n'adopte pas du tout cette position. Il faut lire, justement, c'est là qu'il faut aller voir ce qui est dit dans l'éthique sur le bonheur. C'est très net, n'est-ce pas? Il ne dit nulle part, d'ailleurs, dans la politique, que c'est la politique qui doit donner le bonheur à l'homme. Au contraire, je crois, tout montre que les ordres sont radicalement séparés. Alors, quels vont être, pour vous présenter, bon, on le fera tout à l'heure, après la messe, aussi rapidement que possible, l'apport d'Aristote. Je voudrais insister sur les deux grands dépassements, si vous voulez, d'Aristote par rapport à Platon. Alors, je les distingue, je dirais, pour les besoins de l'analyse, et il ne faut pas, évidemment, dans la pratique, les regarder indépendamment l'un de l'autre. Ce qui me semble être le premier grand dépassement porte justement sur l'analyse de la communauté. Il y a une analyse extrêmement profonde, je crois, et fouillée de la communauté chez Aristote, qui est totalement absente chez Platon. Et le deuxième grand dépassement va porter, vous le savez, vous en doutez, sur la fin, sur le principe de finalité en communauté, qui n'apparaissait pas en tant que tel chez Platon, comme on l'a vu. Alors, ce deuxième dépassement qui va porter sur la finalité en communauté, donc le bien de la communauté, celui qu'on appelle, je dirais, depuis lors, le bien commun. Donc, vous voyez, à cette époque, c'est chez Aristote, qui est vraiment le père du bien en politique et de ce qui va devenir le bien commun. Je dis ce qui va devenir parce qu'en fait, il n'utilise pas lui-même l'expression bien commun, mais il parle du bien en politique. C'est celui que tous les auteurs après lui appelleront bien commun. C'est vraiment lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est à l'origine. Et alors, je dis deux dépassements, la koinonia dans l'ordre de la communauté et l'ordre de la fin, il ne faut pas les séparer, bien entendu. Ce que je vais dire sur la communauté, il faudra regarder la communauté ordonnée à une fin. Et de la même façon, la fin en politique comme étant celle de la communauté et de ceux qui la composent. Alors, c'est là-dessus qu'on reprendra tout à l'heure. Bon, alors on reprend là où on en était tout à l'heure, essayant d'aller assez vite parce que Aristote est plus riche pour nous en réflexion que Platon ne l'était. Alors, je vous disais, le premier grand dépassement d'Aristote par rapport à Platon porte sur l'analyse qu'il fait, analyse philosophique de la communauté. Nouveau, leur finalité est bien, enfin, leur démarche, la finalité de leur démarche est bien la même. Aristote cherche aussi l'harmonie de la communauté. Il va chercher comment on peut véritablement la fonder autrement que Platon le fait. C'est ce qu'on va voir. Comment fait-il pour ça? Il le dit lui-même expressément, il faut remonter à l'origine. Et puisqu'il regarde une communauté particulière qu'est la cité, il va regarder quel est son élément premier et il va poser, découvrir, paraît difficilement contestable, que c'est la famille. Donc, l'analyse de la famille que fait Aristote dans le livre premier de la politique, il l'a fait parce qu'il regarde la famille comme élément premier, donc, de la communauté. On a tendance à, souvent, si on regarde la politique d'Aristote plus dans l'histoire de la pensée, on regarde le livre premier comme, bon, une analyse de la famille, et puis ensuite on va analyser la cité. Il faut bien voir que l'analyse de la famille est en vue de celle de la cité. Aristote va établir une hiérarchie, si vous voulez, entre les communautés. Il part de la communauté élémentaire qui est la famille. Au terme, il y aura la communauté qu'il qualifie de la plus parfaite, la cité. On verra dans quel sens, pour lui, c'est la plus parfaite. Et il parlera, mais très brièvement, d'une communauté intermédiaire qui est le village, réunion de plusieurs familles. Bon, il passe très vite et on passera encore plus vite. Ce qui est intéressant, c'est cette hiérarchie des communautés, si vous voulez. Alors, pourquoi la famille l'intéresse-t-il ? C'est que il trouve dans la famille, et alors ça je crois que c'est tout à fait essentiel, fondamental au sens propre du terme, une origine, un fondement naturel, qui est d'ailleurs double pour lui. Alors il faut se référer évidemment aux circonstances de l'époque. D'une part, le lien entre le mari et son épouse, avec une finalité naturelle, la procréation et l'éducation, et le lien entre le maître et l'esclave, qui font également partie de la famille, avec une fin propre, la conservation. Donc, au sein de la famille, si vous voulez, il y a une démarche naturelle, un fondement naturel. Alors, c'est l'élément de toute communauté. Alors, vous voyez par là que Aristote répond aux sophistes, notamment à l'époque, qui affirmaient, on en reparlera sûrement quand on traitera de la famille dans une autre question disputée, que la famille avait un aspect conventionnel, comme la loi. Tout devient conventionnel. Aristote répond très clairement non sur ce terrain. Pensez d'ailleurs à ce qui est dit aujourd'hui sur ces mêmes thèmes. Alors, l'étude de l'économie domestique, à laquelle, étude extrêmement fouillée à laquelle se livre Aristote par la suite, pas toujours facile d'ailleurs, répond précisément à cette analyse du caractère naturel de la famille. Une fois qu'il a procédé à cela, il passe à la cité. Alors, pourquoi la cité est-elle, je vais assez vite d'abord parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, et puis parce que les questions les plus importantes, je crois, sont d'après. Pourquoi la cité est-elle pour lui la communauté la plus parfaite? C'est parce qu'elle permet d'atteindre en elle-même, en tout cas par elle-même, une certaine autonomie. Et alors là, on retrouve un grand thème qui est permanent dans la pensée grecque aussi à cette époque, en particulier chez Aristote, c'est autarkeia. Autarkeia, alors évidemment qu'on traduit logiquement par autarcie, mais il ne faut pas prendre autarcie au sens économique qu'il a acquis aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'autarkeia grecque et l'autarkeia de la cité? C'est une espèce de suffisance, de satisfaction en soi, si vous voulez. Ce n'est qu'au niveau de la cité que l'ensemble des familles et ceux qui la composent pourront atteindre une certaine satisfaction. Alors on tâchera d'y revenir, c'est pas facile de bien caractériser cela. Mais la cité permet donc d'atteindre la suffisance. La famille permet de satisfaire des besoins naturels premiers, le vivre, mais déjà un peu plus que le vivre, j'y reviendrai, et ce n'est qu'au niveau de la cité qu'on va pouvoir atteindre cette satisfaction. Donc vous voyez, cet enracinement naturel qu'il y a. Il faut le niveau de la cité pour pouvoir atteindre cette satisfaction. Alors pour autant, Aristote ne se borne pas, si vous voulez, à affirmer cela et à regarder la koinonia, la cité, comme un donné. Qu'est-ce qui va constituer la cité? On vient de voir qu'elle a une origine naturelle, un fondement naturel, mais ce qui va la constituer, je dirais au sens plein du terme, c'est-à-dire la construire en même temps, et c'est là que c'est vraiment un grand apport d'Aristote, me semble-t-il, c'est l'œuvre commune. Et c'est pour ça que son analyse de la famille est si poussée, c'est qu'il va analyser comment une œuvre est réalisée au sein de la famille. Et notamment, toutes ces analyses sur les rapports du maître et de l'esclave sont dans ce sens. Alors, la communauté se fonde pour lui, ça je crois que ça nous intéresse directement, parce que l'on réalise ensemble. N'est-ce pas ? Je voudrais vous lire un petit passage du livre premier de la politique, donc au début, 1254 à 2731, qui résume bien sa position. Voilà, voilà ce qu'ils disent. Partout où l'un commande et l'autre obéit, hein, c'est dans le cadre de son analyse du principe de subordination de l'esclave au maître. Partout donc où l'un commande et l'autre obéit, il y a une œuvre commune. En effet, dans tout ensemble composé de plusieurs parties, mais formant une entité commune. Alors ça, c'est le enti koinon cher à Aristote. Donc dans tout ensemble formant une entité commune, que ces parties soient continues ou séparées, se manifestent toujours gouvernant et gouverné. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que Platon n'a pas vu. C'est que c'est dans la réalisation d'une œuvre que la communauté va se constituer. C'est vrai pour la famille et ce sera vrai pour la cité. Alors, attention, il y a tout de suite une erreur à ne pas commettre. Bon, on va d'ailleurs la corriger tout de suite après. C'est que l'œuvre commune n'est pas la fin de la communauté. C'est ce qui fonde la communauté. C'est le fondement. À nouveau, je crois que ce sont des questions qui sont très actuelles. On peut avoir tendance à regarder la finalité de la communauté comme étant l'œuvre, n'est-ce pas, qu'elle réalise. Vous pouvez prendre tout type de communauté. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure si on a le temps. Là, c'est ce qui fonde la communauté. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très actif, si vous voulez, chez Aristote. Et plus on creuse ça, enfin, plus ça m'apparaît frappant. Il y a mise en commun, mais il y a réalisation en commun. Et cette réalisation en commun, si vous voulez, amplifie la mise en commun et construit la communauté. C'est-à-dire, la communauté se caractérise par l'œuvre commune et elle se construit en même temps par elle. Donc c'est quelque chose de très actif, n'est-ce pas ? On n'a pas une vision très passive de la communauté comme celle que pouvait avoir Platon, où on regarde la communauté comme un donné, point, il y a un tout composé de différentes parties. Bon, au passage, on peut quand même s'interroger, est-ce que cette analyse qu'Aristote fait de la communauté est valable pour toute communauté aujourd'hui ? Est-ce qu'on va trouver dans toute communauté, je pense par exemple, prenez une entreprise, c'est une communauté de personnes, est-ce qu'elle a un fondement naturel ? On peut se poser la question. Je ne réponds pas. Comment ça, je crois qu'on peut en trouver. Bon. Mais quelle va être la finalité de l'entreprise ? Est-ce que c'est l'œuvre qu'on réalise ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Vous voyez que ces questions sont extrêmement actuelles, enfin, et conservent toute leur validité, hein, pour aujourd'hui. Alors, donc, quel est le deuxième dépassement ? C'est justement la fin de la communauté. Alors, il ne faut pas les dissocier. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'incite vraiment beaucoup, parce que la tentation est grande. Il faut regarder l'une par rapport à l'autre. Alors là, je voudrais vous lire tout simplement les cinq premières lignes de la politique. On va revenir un peu plus longuement après. 1252 à 1. Alors c'est assez frustrant, vous allez voir, on va se demander pourquoi. Justement, il n'y a que cinq lignes. En fait, je vais prendre la traduction, ce sera mieux. Proposée par le père dans son livre, page 79. Voici comment il traduit. Nous voyons que toute cité est une certaine mise en commun, koinonia, et que toute mise en commun est constituée en vue d'un certain bien. Vous voyez le caractère de généralité, hein ? Toute communauté. A fortiori, donc, toute cité. Tous, en effet, accomplissent tout en vue de ce qui leur semble appartenir au bien. Il est donc évident que toutes les mises en commun ont en vue un certain bien. Mais au plus haut point, Malista, celle qui est la plus importante de toutes, et qui enveloppe toutes les autres, a en vue le bien le plus important de tous les biens. Celle-ci est appelée la cité, la police. C'est la mise en commun politique. Donc, voilà comment s'ouvre la politique. Et puis, tout de suite après, il embraye en disant que les autorités, comme les communautés sont extrêmement diverses, qu'elles ont des forces, des finalités qui sont différentes, les autorités au sein des communautés, de toutes ces communautés, seront aussi diversifiées. Et c'est une réponse à Platon qui affirmait qu'il n'y avait qu'un type d'autorité. Alors, c'est assez frustrant parce que c'est finalement très bref. Mais ce qu'on peut retenir tout de même, c'est que la politique s'ouvre sur cette affirmation, si vous voulez, d'un principe de finalité. Il existe un bien propre à la communauté. Propre à la communauté. Ce n'est pas un bien que l'on va aller chercher ailleurs, on ne sait pas trop. Alors, j'insiste, le bien de la communauté est sa fin et ce ne sont pas donc des moyens. Je pense par exemple, on aura l'occasion sûrement d'en reparler dans les séances suivantes, vous avez un économiste moderne, qui est mort d'ailleurs l'année dernière, Hayek, apôtre de l'économie libérale, enfin, néoclassique après la guerre, qui vous définit le bien commun comme étant un ensemble de moyens destinés à satisfaire des besoins qui ne sont pas encore exprimés. Donc vous voyez très bien que il faut faire très attention au langage qui est trompeur. Ici, il y a un bien commun. Cette table fait partie du bien commun. Bon, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, il y a cet équivoque, si vous voulez, sur le langage, dans toute la pensée et dans toute la philosophie politique. On a tendance à regarder le bien commun comme étant, finalement, un ensemble de moyens au service d'autre chose. Dans la philosophie politique d'Aristote, c'est très clair, le bien est la fin de la communauté politique. Et, en particulier, bon, donc la fin, je vais y revenir, de l'œuvre qu'il a construite. Alors, je voudrais revenir quand même sur le caractère très bref. On ne pourra pas... c'est absolument impossible, d'ailleurs, d'épuiser la question de cette affirmation qu'il y a au début de la politique. Alors, il va reparler du bien de la communauté après, mais sous certains aspects sur lesquels on viendra d'ailleurs. Mais en tant que tel, cette affirmation du principe de finalité n'est pas plus longue, n'est-ce pas, que celle-là. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des analystes de la politique le passent sous silence et on dit livre 1 égale économie domestique et puis livre 2 égale topique historique et réponse à Platon. Et on perd de vue ce point qui, à mon sens, est tout à fait fondamental. Alors, il y a peut-être une réponse quand même qui peut venir d'un autre ouvrage, c'est l'éthique à Nicomaque, puisque vous savez que le livre 1 de l'éthique commence par d'assez longs développements qui sont assez compliqués sur précisément la notion de bien. Alors, je voudrais vous en lire quelques extraits parce que ça nous intéresse directement. Dans une traduction du père que j'ai relevée dans un cours qu'il a fait à Fribourg. Non, je dis ça parce que, bon, c'est vrai, la traduction de Tricot n'est pas bien satisfaisante. Alors, il commence de la façon suivante. C'est le début de l'éthique. Tout art et toute discipline ordonnée, ainsi que toute action et toute intention, semblent être ordonnées à un certain bien. C'est pourquoi on considère convenablement le bien comme ce à quoi toutes choses tendent. Hein. Tous ceux qui ont vu l'éthique se souviennent de ça. Donc, voilà, de la façon la plus générale, l'affirmation d'un principe de finalité. Puis alors, après, dans l'éthique, Aristote va hiérarchiser, n'est-ce pas, les différentes fins. Et puis, il revient dessus, et voilà ce qu'il dit, ça parce que ça nous intéresse. Ainsi, s'il y a une fin que nous voulons à cause d'elle-même et les autres fins à cause de celle-ci, nous ne choisissons pas toutes les fins à cause d'une autre, car de cette façon on arriverait à l'infini, de sorte que le désir serait inutile et insensé. Il est évident que cette fin, c'est-à-dire celle qu'on veut à cause d'elle-même, sera dans ce cas bonne et la meilleure. Donc vous voyez, c'est la hiérarchie qu'il établit entre les fins. Et puis, un petit peu plus loin, il se pose la question, il a dit, s'il en est ainsi, il dit, nous devons nous efforcer de déterminer au moins en ébauche ce qu'elle est en elle-même, c'est-à-dire la fin, et de quelle science et de quel pouvoir elle appartient. Et c'est là qu'il y a ces phrases extrêmement énigmatiques qui sont difficiles à analyser. Il dit, il semble bien qu'elle appartiendra, cette fin, à la plus importante science, hein, à la plus dominante, et celle-ci semble être la science politique. Alors il se justifie de la façon suivante en disant « car elle-même, la politique, donc, commande parmi les sciences celles qui sont nécessaires dans les cités et celles que chacun doit apprendre, et ce jusqu'à un certain point. Aussi, nous voyons que les plus appréciés d'entre les pouvoirs se trouvent en dessous de celle-ci, la politique, donc comme la stratégie, l'économie, la rhétorique. Et la politique se servant de ces sciences, pour les choses restant propres aux actions, et déterminant encore ce qu'il faut faire et de quelle action s'abstenir. » La fin de la politique, donc, comprendra la fin des autres, de façon que cette fin serait le bien humain. Vous voyez, on n'a pas le temps ici, et ce serait difficile, mais en même temps très intéressant, d'essayer d'analyser tout ça. Qu'est-ce que veut dire Aristote dans cette hiérarchie des fins, et est-ce qu'il faut y voir une hiérarchie des biens? Un peu plus loin, il va dire, c'est la phrase que... Je ne la retrouve pas, mais ça n'a pas d'importance. Il va parler du bien en politique en disant que
si c'est le même que le bien d'un seul, voilà, le bien... Non, je ne le retrouve pas, c'est pas grave, excusez-moi. Si c'est le bien de la communauté est le même que le bien d'un seul, le bien de la communauté, donc le bien atteint par la politique, est le plus divin de tous les biens. Alors, c'est une phrase très énigmatique. On ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas analyser tout ça ici. Ce qu'il faut retenir, je crois que, assurément, Aristote ne veut pas placer, si vous voulez, le bien commun atteint par la politique, au-dessus de la hiérarchie des biens, en disant que c'est le bien le plus divin. Je crois qu'il faut beaucoup plus regarder. L'exercice, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il va susciter, c'est-à-dire la croissance et l'acquisition des vertus. Mais ce qui est important, c'est que, ça apparaît bien au début de l'éthique, Aristote montre bien que le bien humain, et je l'ai dit tout à l'heure déjà, ne peut être dissocié de l'ordre communautaire. Donc il n'y aura de bien spécifiquement humain, il n'y aura pas de bien distinct, dissocié de l'ordre communautaire. C'est dans une communauté qu'on peut atteindre sa fin. Donc, le bien commun, en tant qu'il est personnel, je vais revenir là-dessus, participe au bien humain. Et donc, si le bien commun est plus divin, je dirais, dans l'ordre que les autres biens, il le sera, si vous voulez, dans l'ordre pratique et non dans l'ordre des fins propres de l'homme. Alors, on retrouve la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celle du lien entre l'éthique, finalement, et la politique. Mais, pourquoi j'ai fait ce détour par l'éthique, c'est que je crois qu'on peut regarder ce début de l'éthique, ces considérations générales sur le bien, comme valant pour l'ensemble des deux traités, à savoir l'éthique et la politique. Et je crois que c'est ce qui explique, et il y a d'autres facteurs qui tendent à le prouver, il y a une petite étude intéressante à faire là-dessus, que ça explique qu'il soit aussi bref au début de la politique elle-même, sur le principe de finalité. Quand on lit cela, si vous voulez, on a vraiment l'impression qu'il reprend, ou il considère comme acquis ce qu'il a dit au début de l'éthique, et que ce qu'il avait à dire au niveau éthique étant clos, on passe maintenant au plan politique. Mais donc, ce qu'il faut retenir, et ce qui nous intéresse directement, je crois, c'est l'affirmation très nette chez Aristote de ce principe de finalité, de l'existence en politique, c'est-à-dire l'existence d'un bien qui finalise la communauté. Alors, qui finalise la communauté dans quel sens? C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est là qu'on va bien voir la différence qu'il y a entre... à nouveau entre Platon et Aristote, et d'une certaine façon il y a dans toute une philosophie on peut établir une continuité, je dirais, de Platon à Hegel, et puis on voit très bien la différence de la position d'Aristote. Vous pouvez regarder la communauté comme un donné composé de citoyens, si on regarde la cité, et le tout, si vous voulez, est l'ensemble des citoyens, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Et finalement, la finalité d'une telle communauté lui est nécessairement totalement immanente. Le tout est la résultante des parties et des relations entre les parties. L'optique d'Aristote est beaucoup plus active et en sens différent. Ce qui va fonder, je l'ai dit, la communauté, c'est l'œuvre commune. Donc, vous avez des citoyens qui réalisent une œuvre. Et cette œuvre, elle est en vue d'une fin. Alors, vous voyez la différence de perspective. C'est là, on reste, si je puis dire, dans une immanence à peu près totale, alors que là, on a une dimension qui transcende la communauté. La communauté se fonde dans son... qui a une origine naturelle, mais se fonde dans une œuvre commune, et cette œuvre est opérée en vue d'une fin. Alors, vous voyez la différence radicale de perspective. Et ça, je crois que c'est un clivage qu'on va retrouver, mais alors très déséquilibré, dans toute la philosophie politique, jusqu'à nos jours, vous pensez qu'il y a encore une philosophie politique. Alors, évidemment, ce n'est pas exprimé d'une façon aussi nette, n'est-ce pas, chez Aristote, mais je crois vraiment qu'on peut parfaitement justifier cette approche. Donc, vous voyez, d'un côté, une vision très passive, on regarde les choses comme un donné, et l'autre, une vision beaucoup plus constructive, et je n'hésite pas à dire active. C'est ça qui me frappe. Quand on creuse ces notions de communauté, de finalité chez Aristote, c'est le côté actif des constructions auxquelles il procède. Et ce n'est pas gratuit, parce que je crois qu'on pourra faire, enfin je le suggérerai tout à l'heure, on peut peut-être faire une analogie avec l'acte, justement. Alors, deux précisions. La première, c'est que pour Aristote, le bien commun, autre différence avec ce que je vous disais de Platon tout à l'heure, n'est pas le bien de la communauté. Il est le bien. Alors, il y a une expression qui est très belle. Il a dit, livre 3, 1278, B24. Le bien est la fin de tous en commun et de chacun en particulier. Alors vous voyez, alors c'est assez fin, c'est pas évident de se persuader de cette finesse. Pourquoi ? Parce que précisément, pendant quantité d'auteurs, la plupart opposent, ce que je disais tout à l'heure avec Platon, le bien de la communauté au bien particulier. Là, le bien commun pour Aristote, ça c'est très net, il le dit, je voulais citer expressément, c'est le bien de tous en commun et de chacun en particulier. Donc il y a une dimension personnelle dans le bien commun. Donc vous voyez qu'on ne va pas avoir cette opposition dialectique qu'on avait entre le bien d'une communauté et le bien de particuliers ou de certains groupes. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Alors, deuxième remarque, qui anticipe un peu sur ce que je vais dire par la suite sur ce bien commun, parce que bon, tout ça ouvre plus de questions, enfin, beaucoup de questions en tout cas, ça nous éclaire, mais ça ouvre aussi beaucoup de questions. Pour Aristote, l'amitié politique, n'oubliez pas, hein, on cherche toujours la concorde dans la cité. Pour Aristote, c'est la réalisation de l'œuvre commune finalisée par le bien commun qui va faire naître entre ceux qui coopèrent une amitié politique. Hein, il y a, pour Aristote, c'est indiscutable, une philia dans l'ordre politique. Alors, à nouveau, on peut se poser toutes les questions des liens, je les évoquerai si j'ai le temps tout à l'heure, entre cette philia et la philia dont il parle dans l'éthique, mais alors, ce qui est d'ailleurs significatif, c'est que Aristote, je crois ne pas me tromper en disant qu'Aristote n'utilise pas le terme de concorde dans la politique. Il en parle dans l'éthique, mais il parle surtout d'amitié dans la politique. Donc, c'est de l'œuvre commune, la réalisation de l'œuvre commune, que va rejaillir l'amitié entre ceux qui coopèrent. Il va très loin d'ailleurs parce qu'il va dire... au livre premier, quand il analyse les rapports du maître et de l'esclave, il va dire, pour ça, le maître et l'esclave ont même intérêt. Et une certaine amitié peut naître entre eux. Bon, alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce que dit Aristote des rapports du maître et de l'esclave, mais surtout ce qu'on lui a fait dire. Je crois qu'on lui a fait beaucoup de faux procès et de mauvais procès. Mais l'important est bien là, si vous voulez, c'est que on refuse, enfin, on peut l'analyser comme ça, une approche vraiment résolument dialectique chez Aristote par l'acceptation, si vous voulez, d'une transcendance par le bien commun qui vient finaliser l'œuvre commune qui fonde la communauté. Bon, alors, à partir de là, vous allez me poser la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce bien commun ? Qu'est-ce qu'Aristote en dit ? Alors, de nouveau, les questions vont surgir. Aristote précise, bien entendu, ce que l'on peut regarder comme étant le bien commun. Alors, on est embarrassé parce que, selon les endroits où il en parle dans le traité, il va le qualifier de façon très différente. J'y viens, c'est ce que je voudrais vous présenter rapidement. Donc, je crois qu'au départ, il faut garder en mémoire cette question. Est-ce que ce qu'il va nous dire du bien commun, c'est le bien commun lui-même, ou est-ce que c'est l'expression, la manifestation du bien commun dans une communauté qui se fonde dans une œuvre? Bon, gardez cette question en mémoire et puis on va y revenir. Vous allez voir, on va essayer d'éclairer tout ça. Mais c'est, à nouveau, ce n'est pas facile. Si on prend stricto sensu tous les, je me suis obligé à le faire, les moments où Aristote dit le bien en politique c'est, on arrive à des contradictions évidentes. Parce qu'à un moment, il va vous dire le bien en politique c'est la justice, donc l'intérêt général. Il va vous dire le bien en politique, c'est le bien vivre. Il va vous dire le bien de la cité, c'est autarkeia. Et on va voir des concepts, si vous voulez, qui sont différents. Donc il faut se demander pourquoi Aristote, qui pèse chaque mot, va utiliser des expressions de nature différente. Alors, si on veut, on peut quand même alors préciser ce qu'il entend, enfin ce qu'il place sous l'égide du bien commun. Je le ferai tout simplement, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs, en privilégiant deux angles. Mais à nouveau, il ne faut pas les dissocier. C'est toujours le risque. D'abord, si vous voulez, si on regarde du côté de la communauté, à nouveau, le bien commun n'est pas le bien de la communauté, il est bien de la communauté et de chacun en particulier. Donc, privilégions le côté communauté. Et alors, c'est ce que je l'ai effacé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le bien, si vous voulez, vu sous cet angle-là, c'est l'autarcie, la autarkeia. Alors, je voudrais vous lire un petit... Alors, il est très net, il est là-dessus. Je voudrais vous lire, dans le livre 1, 1252, B27. Et jusqu'à 1253, A1. Voilà ce qu'il dit. La communauté née de plusieurs villages est la cité, elle parfaite, atteignant désormais, pour ainsi dire, le niveau de l'autarcie complète, hein, donc, autarchéa. Et alors, il ajoute, se formant pour permettre de vivre, elle existe pour permettre de vivre bien. C'est pourquoi toute cité existe par nature, tout comme les premières communautés. Hein, vous voyez ce que je disais. Elle est en effet leur fin, or la nature d'une chose, c'est sa fin. Ce qu'est chaque chose une fois sa croissance achevée, c'est cela que nous appelons la nature de chaque chose, par exemple d'un homme, d'un cheval, d'une famille. De plus, la cause finale et la fin, la traduction n'est pas excellente, enfin, la cause finale et la fin, c'est ce qu'il y a de meilleur, or, se suffire à soi-même, en fait il dit autarkeia, est à la fois une fin et ce qu'il y a de meilleur. Donc, vous voyez, c'est autarkeia vraiment, enfin, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, une satisfaction, si vous voulez, une suffisance atteinte à un certain niveau. Mais alors attention, il ne faut pas le regarder à nouveau de façon trop passive. Ce n'est pas un état de la communauté. Plus exactement, c'est un état qui se construit en permanence, si vous voulez. On ne va pas dire à un certain moment, à un certain seuil, ça y est, on a atteint autarkeia, et puis on s'arrête. Non, c'est quelque chose qui est perpétuellement à construire. Vous voyez, il y a toujours ce risque dans ces concepts vus par Aristote de les regarder d'une façon qui ne soit pas active, c'est-à-dire comme un état. Et alors, on va le retrouver pour le concept suivant. Alors, au passage, je vous indique que c'est un des points sur lesquels, à nouveau, Aristote répond à Platon, et en lui reprochant, en lui disant que trop d'unité dans la cité, puisque Platon n'avait que cela en vue, nuit à l'autarcie de la cité. Il y a un assez long développement qui explique en quoi l'unité dans la cité est mauvaise, en fait, pour cette autarkeia qu'il recherche. Bon, je passe. Pour ceux que ça intéresse, livre 2, 1261, B, 10 à 15. Alors, si... Ça, on vient de voir, si vous voulez, un petit peu en privilégiant le point de vue communauté. Regardons du côté du citoyen. Alors, le bien commun, cette fois-ci, vu du côté du citoyen, c'est se manifeste par Eudzen. Eudzen, le bien. Alors ça revient tout le temps. D'ailleurs, je vous l'ai cité dans le passage que j'ai cité tout à l'heure. Alors, c'est pas très facile à nouveau à préciser ce que c'est que ce bien-vivre. Mais voyez, quand il se référait à la famille, il oppose le vivre au bien-vivre. On voit très bien, on peut regarder une communauté comme destinée à satisfaire des besoins immédiats, naturels. Est-ce que ça suffit? Pour Aristote, non. Toute communauté recherche certes le vivre, mais elle recherche aussi le bien-vivre. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ce bien-vivre pour les citoyens? Alors, bon, là encore, ça pourrait faire l'objet de développements assez longs, mais j'évoquais déjà l'amitié, si vous voulez, au niveau interpersonnel, qui rejaillit de l'œuvre commune. Assurément, la philia participe de ce bien-vivre personnel. Il a des phrases à nouveau, pas seulement dans l'éthique, mais en politique, très, très belles. L'amitié est le plus grand bien pour les cités. Vous voyez d'ailleurs à nouveau que ce bien prend des expressions diverses, car elle permet d'éviter les dissensions. Toujours cette recherche, n'est-ce pas, de la concorde. Le choix délibéré de la vie en commun, dit-il, c'est de l'amitié. Alors, comme je vous le disais, donc, première dimension, je dirais l'amitié. Et puis alors, il y a une autre expression qu'Aristote emploie, et on le voit très bien alternativement pour Eudzen, c'est Zen Kalos. C'est le vivre grandement, si vous voulez. C'est une vie belle. Ça fait appel d'ailleurs à des développements qui a donné dans l'éthique, notamment sur la grandeur, sur la magnanimité, si vous voulez. Je vais vous donner quelques citations qui expliquent un petit peu, qui permettent de mieux cerner ce concept. Enfin, vous voyez déjà ce que le bien-vivre peut recouvrir. Hein. Il y a une générosité, une grandeur au niveau strictement personnel, et puis une amitié au niveau interpersonnel. Voyez ce qu'il dit. Voilà. La fin de l'état étant donc le bien-vivre, tout Eudzen. Tout cela n'existe que pour cette fin. Une cité est une communauté de familles et de villages vivant d'une vie achevée et autarcique. Toujours les mêmes contextes qui reviennent, les mêmes concepts qui reviennent, et vous voyez, mêlés. C'est ça qui n'est pas très facile. C'est cela, à notre avis, mener une vie heureuse et bonne. Alors, voyez, une vie heureuse et bonne. Il met tout zen, eudaimonos, kai kalos. Heureux, le bonheur, voilà, et la grandeur, si vous voulez, plus exactement, la beauté de la vie, si vous voulez, il y a une dimension de beauté dans la vie. Il ajoute ailleurs, les belles actions, kalos, hein, voilà ce qu'il faut poser comme une fin de la communauté politique et non la seule vie en commun. Donc voyez un petit peu tout ce que recouvre ce bien-vivre qui est très difficile à cerner et qu'on ne peut pas définir précisément. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce concept de bien-vivre, de zen, c'est à nouveau son côté actif. N'est-ce pas ? Le bien-vivre, ce n'est pas un état pour la communauté. C'est quelque chose qui se construit en permanence, comme l'œuvre commune, et qui se construit dans l'œuvre commune que l'on réalise. C'est ce que l'on atteint dans l'œuvre commune. Comme à Autarkeia, comme vous voyez, je ne sais pas si j'arrive, c'est assez difficile à saisir. Donc, c'est vraiment, je crois que Aristote veut chercher à nous montrer à se distinguer de Platon et de sa vision passive des choses. On regardait la Concorde comme un état de relation entre les citoyens. Bon, alors, il ne faut pas séparer Autarkeia et Eudzen, si vous voulez, hein, l'autarcie et le bien-vivre. La cité n'atteindra l'autarcie, si vous voulez, que lié au bien-vivre des citoyens. Et le bien-vivre des citoyens appellera l'autarcie de la cité. Vous voyez, tout ceci est très actif, très lié. Si on arrête le processus, si on le regarde d'une façon passive, il ne reste plus que des concepts isolés et qui n'ont pas grand sens. Et je crois qu'on aboutit vraiment à une espèce de contradiction dans la pensée des contradictions dans la pensée d'Aristote. C'est sûrement pas ce qu'il voulait nous faire passer. Alors, au passage, parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a des Aristote nous permet de préciser ce qu'il entend lui par rapport à Platon à nouveau sur la justice et surtout sur l'intérêt commun et l'intérêt général. Alors la justice, je passe assez vite parce qu'il faudrait un développement long. Ce qu'il faut retenir pour lui, c'est que naturellement la justice en politique, ça va être une des vertus qui va avoir une application politique, en tout cas sa place en politique, est ordonnée au bien commun. Donc, déjà un regard différent de celui de Platon. Bon, et ce qui est plus important, c'est l'intérêt commun ou l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est pour Aristote ? Parce que, pas oublier que la notion d'intérêt commun et d'intérêt général est extrêmement actuelle. Tout le droit français, fourmille, n'est-ce pas, de référence à l'intérêt commun et à l'intérêt général, le droit positif actuel. Alors, il faut savoir ce que ça recouvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces analyses d'Aristote que l'intérêt commun, c'est ce que les dirigeants doivent sauvegarder. C'est-à-dire tout ce qui est en vue du bien commun. Toute la marche de la cité et des citoyens, pour ne pas les distinguer, bon, pour les associer tout le temps, en vue du bien commun, voilà ce que c'est que l'intérêt commun ou l'intérêt général. Si vous voulez, Platon à nouveau le regardait d'une façon très, très froide. Voilà, il y avait l'intérêt de la cité face à l'intérêt des citoyens. Vous voyez que pour Aristote, c'est complètement différent. L'intérêt commun, c'est tout ce qui va permettre de sauvegarder le bien commun. Donc il y a un aspect, je dirais, assez nettement instrumental de l'intérêt commun et de l'intérêt général chez Aristote. Voilà. Alors à partir de là, je voudrais qu'on se pose un certain nombre de questions parce que, et là je m'interroge devant vous pour qu'on s'interroge tous ensemble. Je reviens à la question que j'évoquais en essayant de préciser ce que recouvre la notion de bien commun. Est-ce que Autarkeia Eudzen c'est le bien commun ou est-ce l'expression du bien commun ? Alors, ceci nous conduit à nous poser une question par rapport à la philosophie d'Aristote : est-ce qu'il faut regarder le bien commun, donc je ne veux pas dire de la communauté, hein, puisque c'est à la fois communautaire et personnel, comme un principe de l'activité de l'homme dans sa dimension politique. Ou bien faut-il regarder le bien commun, donc quelque chose de tout à fait transcendant, si vous voulez, ou bien faut-il le regarder comme quelque chose d'immanent à la communauté. Donc je crois que nécessairement on doit se poser cette question. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas du tout aisé d'y répondre. Aristote, en tout cas, n'y répond pas du tout directement. Chez Platon, la communauté politique, si vous voulez, n'avait pas de finalité propre dans l'ordre politique lui-même. Chez Aristote, il y en a une, mais il faut se poser la question, comment se situe-t-elle, oui, par rapport à la communauté ? Alors, il faut être très prudent, hein, donc tout ce que je vous dis maintenant, c'est surtout de l'ordre de l'interrogation. Quelque chose qui me frappe, c'est que quand vous prenez ce que dit le père sur l'éthique, dans son livre, page 34-35, si vous voulez, il, analysant donc les premiers passages de l'éthique que je vous ai lus rapidement tout à l'heure, il est conduit à qualifier d'induction pratique, si vous voulez, le bien qui est atteint en éthique. Et il dit finalement, cette induction, on l'atteint par, Aristote, il procède par trois voies. D'abord, l'affirmation d'un principe de finalité par le bien. Ensuite, une hiérarchie entre les différentes fins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a un qui est ultime, celle qui finalise tout. Donc en fait, une séparation entre la fin et les moyens. Et puis, troisième élément du raisonnement, en éthique, hein, il le dit, cette autarkeia, à nouveau, cette suffisance, cette satisfaction que l'on atteint lorsque l'on atteint son bien, précisément. Alors, on peut se poser la question, et je crois qu'on doit se poser la question, de savoir si cette espèce de principe atteint, enfin, ce principe atteint par induction pratique, vaut dans l'ordre politique. Bon. La réponse n'est pas évidente. Je crois que je crois qu'on peut s'orienter, réagir de deux façons. Premièrement, si on regarde le début de l'éthique comme valant pour les débuts de la politique, la généralité même avec laquelle Aristote traite du bien au début de l'éthique peut être regardée comme valant pour le bien en politique. Bon, alors si on considère strictement les textes, on peut dire mais non, ça il le dit dans l'éthique, ça ne vaut pas pour la politique. Mais à ce moment-là, j'aurais tendance à répondre que ce raisonnement que je viens de détailler rapidement, mais qui apparaît très clairement au début de l'éthique, vaut parfaitement, me semble-t-il, enfin peut valoir en tout cas en politique. Une hiérarchie, une fin ultime, une hiérarchie entre les fins, et l'autarkeia, c'est quand même pas fortuit qu'on retrouve ce même terme, atteint lorsque la communauté atteint son bien. Donc, je crois qu'il faut garder cette question et en mémoire, la creuser et puis en reparler lorsque la question disputée viendra. Est-ce que il faut vraiment regarder le bien commun comme un principe, c'est-à-dire comme la cause propre de l'activité humaine dans sa dimension politique. Et alors, vous voyez qu'on retrouve à ce moment-là la question que j'évoquais tout à l'heure sur les manifestations, les expressions du bien commun, autarkeia, eudzen, zenkalos, etc. Est-ce que finalement, c'est purement personnel, hein, on ne peut pas les regarder, si vous voulez, comme étant des manifestations, des expressions, des modalités, en somme, du bien commun dans la communauté. Est-ce que ce n'est pas l'existence d'un principe, au sens vraiment aristotélicien du terme, si on peut le préciser, qui rejaillit dans la communauté et qui se manifeste, si vous voulez, de différentes façons? Un principe, ça ne se définit pas, d'où la difficulté, d'ailleurs, qu'on a à cerner le concept. Est-ce qu'on ne peut pas regarder les choses comme ça? Ou bien, si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on est conduit à ce moment-là, à dire, eh bien, eudzen, voilà, le bien commun, c'est le bien vivre, c'est l'autarcie. Et cette question, on peut se la poser à partir de la politique d'Aristote, mais je dirais qu'on se la pose, on peut se la poser aujourd'hui pour toute communauté. Je repense à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Prenez aujourd'hui le cas d'une entreprise. Voilà plusieurs personnes qui se réunissent pour produire certains biens. Bon, pour fonder une entreprise, produire. Quel est le bien de cette entreprise? Est-ce que ça va être l'œuvre elle-même? Est-ce qu'on va s'arrêter à l'œuvre de l'entreprise? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on va dire le bien de l'entreprise vu du côté collectif, du côté communauté, donc c'est le profit, discours libéral. Le bien vu du côté du salarié, de celui qui coopère, c'est un certain état social satisfaisant, la satisfaction sociale, si vous voulez, des salariés dans l'entreprise. Autre discours, donc vous voyez le pendant. Non mais, vous voyez qu'on peut rester à un niveau d'affrontement, finalement, entre ces notions. Et ceci est vrai, je crois, pour toute communauté. Ou bien, est-ce qu'il faut essayer d'atteindre un principe au-delà de ces deux dimensions, qui ferait que l'expression du bien de l'entreprise, ce serait aussi bien le profit dans son aspect communautaire, mais aussi un certain état social et puis telle ou telle autre chose, puisque le bien de chaque communauté est différent. Donc il peut prendre de multiples formes, et il prend nécessairement de multiples formes et aussi variables que sont les communautés elles-mêmes, entre elles. Donc, vous voyez que c'est une question qui n'est pas simple du tout.
Il y a une analogie, moi, qui me vient à l'esprit, mais alors, je ne veux pas être hérétique, mais voyez, pensez à ce que dit Aristote pour l'acte. Évidemment, on le voit sous deux dimensions, quand il induit l'acte. Il y a energeia, le bien ultime, la fin, et il y a entelegeia, ce qu'on atteint dans la fin. Est-ce qu'on ne peut pas regarder... C'est une analogie, hein. Est-ce qu'on ne peut pas regarder d'une certaine façon, dans le même sens, le bien commun ? C'est-à-dire un bien transcendant et un niveau, si vous voulez, de l'ayance dans la fin, enfin dans l'ayance dans le bien, eudzen, autarkeia. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas facile à saisir. Mais on n'arrête pas de se heurter, si vous voulez, à tout bout de champ, à ce problème. Est-ce qu'il faut résorber le bien au niveau de la communauté ou est-ce qu'il faut essayer de trouver autre chose ? Alors il y a une autre analogie qu'on peut suggérer pour essayer d'approcher, de coincer un peu plus ce bien commun, si j'ose dire. C'est à la fois de servir du principe en philosophie pratique, en philosophie de l'art, et du principe en éthique. Vous voyez que le bien commun tient des deux. En philosophie pratique, vous avez la réalisation d'une œuvre, mais dont le principe est l'idéa. Vous voyez qu'on peut retrouver cette analogie. Mais en même temps, vous avez le côté actif de l'éthique qui entre en cause. L'œuvre, elle n'est jamais achevée pour une communauté. Alors que l'œuvre d'art, elle s'achève. Au moins, de façon satisfaisante ou pas, d'une certaine satisfaction, il n'y a pas longtemps, de repos dans l'œuvre. Une certaine autarkeia dans l'œuvre aussi. Mais en politique, ce n'est jamais achevé. Donc, on a également l'aspect très... Alors, c'est très net chez Aristote, d'ailleurs, du bien qui attire. Vous voyez ce n'est pas seulement la réalisation d'une œuvre. Vous voyez tout de suite le risque qu'il y a à regarder la communauté comme une œuvre. On ramène finalement alors la communauté à l'ordre pratique. Et à ce moment-là, la politique perd, je dirais, tout son intérêt et toute sa spécificité. Alors, ce sont des questions que je vous soumets, qui ne sont pas faciles. Je vous demande pardon d'ailleurs de m'exprimer avec autant de difficultés, parce que on a beaucoup de mal à saisir le principe. On ne peut pas définir le bien commun. Je prends un autre exemple. Le père l'avait, dans sa séance là, d'introduction, il l'avait cité. Évidemment, quel est le bien commun pour notre communauté ? Est-ce que c'est la sainteté ? Ou est-ce que c'est le Christ ? Alors, on est à un autre niveau, parce qu'on est au niveau chrétien, pas strictement au niveau philosophique. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder la sainteté, notre communauté, qui est aussi la sainteté de chacun en particulier, communauté personnelle, comme... le niveau ordonné à un niveau supérieur qui serait le Christ. Je pose des questions hein, pour vous montrer que ce n'était pas facile de cerner. Alors, le repas, il y a tout un volet hein, que je n'ai pas évoqué, qui est d'ailleurs extrêmement difficile, enfin complexe, c'est le lien entre le bien commun et le bien en éthique. Ce n'est pas facile parce que Aristote, fidèle à son principe de distinction des ordres, n'entraîne pas directement. Donc ce n'est qu'indirectement qu'on peut essayer et surtout d'ailleurs plus dans l'éthique que dans la politique, qu'on peut essayer d'aborder cette question. Alors voilà ces questions que je vous soumets. Je ne sais pas, est-ce que la minute qui reste, est-ce que vous avez des interrogations ou je vous ai plongé dans des abîmes de perplexité ? Oui ?
Tu as fait l'analogie avec le corps ?
Oui ? Oui, mais justement, ce n'est pas cet aspect-là que Platon regarde dans le corps. Ah oui, justement. Mais non, Aristote ne reprend pas du tout l'analogie du corps. Pas du tout. C'est vrai qu'il pourrait la prendre sous l'aspect vivant. Mais ce qui est très significatif chez Aristote, et c'est là qu'il se démarque de Platon, c'est qu'il s'en prend à l'uniformité, si tu veux, que Platon veut imposer dans la cité. Et donc, tout son discours, c'est, je dirais, d'affirmer... la nécessité, d'abord naturelle, mais en plus la nécessité dans l'ordre pratique, de la diversité. C'est un farouche ennemi de l'uniformité. Alors que, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il ne reprend pas du tout cette analogie du corps, c'est que ce qui intéressait Platon aussi, c'était l'unité du corps, et ensuite lui allait assurer en plus l'uniformité des membres. Donc on n'est pas du tout dans la même optique. Au contraire, Aristote veut se démarquer, d'ailleurs critique très explicitement Platon, sous cet angle-là. Donc l'analogie du corps ne peut pas lui convenir. Oui ?
Est-ce que tu places donc le bien
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une dérive du langage, qui va même plus loin. Je veux dire, il y a une dérive de la pensée. Une juridisation trop grande de la pensée politique aboutit à ça. On dit le bien commun, c'est l'intérêt général. Pas du tout. Alors, chez Aristote, c'est pas ça. L'intérêt général, c'est ce que le gouvernant doit privilégier dans la cité pour qu'elle soit sans cesse ordonnée au bien commun. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté très instrumental, si vous voulez. Donc, l'intérêt général, ce n'est pas le bien-vivre ou l'autarcie de la cité. C'est préserver, tout faire pour tendre vers ce bien-vivre et vers cette autarcie. Je ne sais pas si je réponds bien à tes questions.
Oui, donc, c'est pas ça, donc le bien-vivre et l'autarcie sont au niveau de cet intérêt général ?
Non, l'intérêt général, c'est la sauvegarde de cela, en tant qu'ils sont expression du bien commun dans la cité.